Studio Tamani, voici nos informations en français.
Jeudi 30 mai 2019, il est 17h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani et les titres. La vidéo qui dénonce la radiation d'une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers en formation à Markala fait l'objet d'une conférence de presse hier à Bamako. Le directeur général de la protection civile dément l'information et soutient que les remplaçants ont bel et bien suivi les règles. L'insécurité reste d'actualité à l'intérieur du pays. Au moins 10 civils ont été tués cette semaine par des hommes armés et non identifiés. Les fidèles chrétiens et musulmans fêtent aujourd'hui l'ascension ou la montée du Christ au ciel et la nuit du destin, Laylatul Qadr. Quel est le sens de ces fêtes? Qu'est-ce que ça représente? Des éléments de réponse dans cette édition. À la présentation, Adam Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Gagny Kanti. Bonsoir et bienvenue aux informations. La Direction générale de la protection civile dément le contenu de la vidéo dans laquelle des jeunes recrues affirment qu'ils ont été injustement exclus de la formation des sapeurs-pompiers. Dans cette vidéo, on voit des jeunes dénoncer les circonstances dans lesquelles ils ont été enlevés d'une formation en cours à Markala. Intala Agbilal.
Cette vidéo a provoqué des vives réactions sur les réseaux sociaux. Les parents et proches des exclus s'insurgent contre cette décision. Ils dénoncent les magouilles, les injustice et les combines dans le processus de recrutement. Le conseil régional de l'agence de Sikasso va plus loin et promet de faire des contre-expertises médicales et saisir la justice pour diligenter cette affaire. Madame Mama Sira Keita, membre du conseil régional de l'agence de Sikasso.
Il y a trois qui viennent de chez nous qui à Sikasso. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se fasse au Mali, vraiment, parce que les hauts cadres font venir leurs enfants et leurs protégés des autres zones. Nous allons même saisir des avocats pour défendre les intérêts de ces jeunes.
Cependant, le directeur général de la protection civile, le colonel-major Seydou Doumbia, dément formellement le contenu de cette vidéo concernant l'irrégularité dans le processus du recrutement à la protection civile. Selon lui, des raisons bien précises ont prévalu au remplacement de ces jeunes. Il estime que la visite médicale d'entrée au camp de Markala a révélé chez eux des maladies et des incompatibilités à exercer la fonction militaire. Colonel-major Seydou Doumbia, directeur général de la protection civile.
Même si dans tout le processus, on dit que vous êtes sain et sauf. À votre arrivée au camp, tout le monde fait la visite d'arrivée. Donc, au cours de cette visite d'arrivée, le médecin a décelé chez 22 des recrues des anomalies qui sont incompatibles avec la formation militaire. D'après lui, certaines pathologies sont contagieuses, donc peuvent contaminer les autres recrues. Donc, les éléments ne peuvent pas subir ou effectuer vraiment les mouvements, les gestes nécessaires pour la réussite de la formation militaire.
En attendant la suite de cette affaire, les responsables de la structure affirment que les 22 exclus ont déjà été remplacés par d'autres éléments plus sains et aptes à suivre la formation.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook et notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Célébration ce mercredi 29 mai de la journée des casques bleus des Nations Unies. Une cérémonie a réuni pour l'occasion les responsables de la mission de l'ONU au Mali. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs régions du pays, toute chose qui relance les débats sur l'efficacité de la force onusienne au Mali et de son apport dans la stabilisation du pays. Pour certains, il ne faudrait pas attendre un grand changement dans son nouveau mandat qui sera renouvelé dans quelques jours. Les explications avec Moussa Madi Sissogo.
Les casques bleus des Nations Unies ont pour mission la protection des populations civiles dans les zones de conflit. Appelés soldats de la paix, ils mènent également des activités qui favorisent un environnement protecteur visant à restaurer et à étendre l'autorité de l'État. Dans une situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus au Mali, certains s'interrogent sur l'impact des opérations de ces forces sur les populations civiles dans le centre et le nord. Cependant, d'autres estiment que la présence de la force onusienne est remarquable.
Leur utilité dans la ville de Gao ne fait qu'empirer la situation au lieu de le calmer.
Présentement, il n'y a pas de rentabilité. Parce que souvent, même si on leur signale quelque chose, ils font semblant.
Moi, je dirais qu'ils ont vraiment une importance. Pas très efficace, mais leur présence est vraiment très très important.
Selon les responsables de la MINUSMA, les missions de paix n'ont pas pour vocation de lutter contre le terrorisme. Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA.
Il faudrait leur donner un mandat un peu plus robuste qui leur permet de faire face aux dangers et surtout leur donner l'équipement et les moyens nécessaires qui peuvent les aider à mieux s'acquitter de cette tâche.
Pour Ibrahim Maïga, analyste à l'Institut d'études de sécurité, les casques bleus de la MINUSMA sont une force d'interposition entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Selon lui, ce nouveau mandat pourrait être axé sur un rééquilibrage.
Il faut que la protection des civils soit en mode d'action de la MINUSMA. Et donc aujourd'hui, la MINUSMA doit réadapter ses moyens pour ces deux types de pressions, donc les pressions internes exercées par la population malienne, mais aussi par le gouvernement malien, mais au coût budgétaire.
Les éléments de la MINUSMA comptent 13 289 soldats et 1920 membres de la police. Son nouveau mandat sera renouvelé en fin juin prochain.
La spirale d'insécurité ne faiblit toujours pas dans le centre et le nord du pays. Cette semaine, au moins 10 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans la région de Mopti. Hier soir, le véhicule du maire de la commune urbaine de Tombouctou a aussi été enlevé. Les détails avec Assitou Kanté.
Le véhicule du maire de la commune urbaine de Tombouctou a été enlevé hier soir par deux hommes armés non identifiés. L'enlèvement s'est fait à son domicile. Une enquête a été ouverte. Le mardi dernier, des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Gonoguru dans la commune de Diankabou, cercle de Koro. 4 habitants ont été tués et un autre grièvement blessé. Ce dernier a été évacué à Mopti. Dans le village de Sangemara, une autre attaque a eu lieu hier faisant un blessé selon des sources locales. Toujours au centre, à Bankas, des individus armés ont assassiné deux hommes au centre de santé de référence de la localité. Des témoins indiquent qu'un autre a été blessé. À 30 km de Sévari, à Soumadougou, 5 hommes armés ont tenté ce mardi soir d'enlever un vendeur de téléphone portable à son domicile. Suite au cri de sa femme, les habitants sont venus porter secours au vendeur. Selon des sources locales, il y a eu des échanges de tirs. Deux assaillants ont été tués, deux blessés qui ont été remis à la gendarmerie et le cinquième s'est enfui. Pour le moment, on ignore les causes de cette tentative d'enlèvement. Dans la même localité de Soumadougou, il y a de cela deux semaines, une autre personne a été enlevée. Sa famille est toujours sans nouvelles de lui.
Après la publication du rapport d'International Crisis Group qui recommande aux autorités maliennes de négocier avec les djihadistes, le gouvernement se dit prêt à dialoguer avec ceux-ci. Le ministre de l'administration territoriale, Aboubacar Alphaba, dans une interview accordée à nos confrères de RFI, assure qu'ils sont d'accord sur le principe du dialogue et qu'ils y travaillent. Aboubacar Alphaba, au micro de nos confrères de RFI.
On a des expériences dans la région du centre, à Djéné, à Mopti, à Dialoubé, où les représentants de nos chefferies locales ont pris langue avec certains membres de ces groupes-là. Donc le dialogue existe. Maintenant, comment le formaliser? Quelle pédagogie, j'insiste sur le mot pédagogie, il faut pour qu'il y ait un dialogue véritable entre eux et nous, disons au plus haut niveau de l'administration. Donc nous y travaillons, nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule pour se parler et de trouver les points sur lesquels on peut discuter. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable.
S'il y a déjà eu des tentatives, pourquoi ces tentatives échouent selon vous?
Elles n'ont pas toutes échoué. C'est peut-être l'ampleur et la dimension territoriale de ce dialogue-là et la qualité des interlocuteurs qui peut varier. Je dis le dialogue existe, maintenant c'est d'aller à une autre échelle.
On l'avait annoncé dans les titres, les fidèles chrétiens fêtent aujourd'hui l'ascension ou la montée du Christ au ciel. C'est une des fêtes traditionnelles chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques. Toutefois, contrairement à certains pays voisins, ce jour n'est pas chômé et payé au Mali, regrette certains chrétiens. Pour le pasteur Souriba Joseph Camara, délégué général adjoint de l'association et groupement des églises de mission protestante au Mali, l'ascension n'est pas chômée parce que c'est une fête qui n'est pas suffisamment connue. Il est au micro de Arkia Touré.
D'abord, c'est de se rappeler de ce grand événement dans l'histoire de l'Église, à savoir l'ascension de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et deuxièmement, si possible, organiser des prières, des louanges, et surtout nous, particulièrement les chrétiens qui connaissons que ce que Dieu avait promis, il l'a accompli. Et un jour, le Seigneur vivant qui est monté au ciel reviendra nous prendre.
Vous l'avez dit, c'est un grand jour, la fête de l'ascension. Oui. Et ce jour n'est pas chômé en République du Mali. Est-ce que c'est un problème, selon vous?
Je crois que les chrétiens doivent commencer à célébrer cette ascension. Nous d'abord, bien sûr, ils célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais son ascension n'est pas tellement célébrée chez nous ici au Mali. Mais tant que nous-mêmes, nous n'avons pas pris ça réellement en compte, ce sera mieux connu.
La nuit de Laylatul Qadri ou encore la nuit du destin sera célébrée ce soir. Selon l'imam de la mosquée de Torokorobougou, cette nuit est un moment de pardon et d'adoration intense d'Allah. Pour Mohamedou Diallo, la récompense et l'agrément d'une prière de cette nuit est égale à celle de 83 ans. Mohamedou Diallo, imam de la mosquée de Torokorobougou, joint depuis la Mecque par Mohamed Babakunta.
C'est une nuit extraordinaire où le Coran dit, nous avons certes révélé le Coran dans cette nuit bénie de Laylatul Qadr. C'est une nuit où Aïcha, la mère de Quraysh, pour poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si la nuit du destin arrive, qu'est-ce que je dois dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète a répondu, il faut dire Allah, vous êtes pardonneur, donc vraiment, je vous demande pardon. Donc, si on résume un peu la nuit du destin, c'est pour s'engager à une nouvelle vie, à une vie meilleure. Le musulman doit s'engager à partir de cette nuit-là vraiment à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si le musulman prie des rakats et que ça coïncide avec la nuit de Laylatul Qadr, il aura la récompense de 83 ans et 4 mois.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Dans un instant, le grand dialogue. Bonsoir, Mohamedou Touré.
Bonsoir, Adama Haïdara.
Le débat de ce soir va porter sur quoi?
On va parler d'argent. Réforme politique et institutionnelle au Mali. D'où viendra l'argent? C'est le thème du grand dialogue. Et nos invités sont Modibo Mahouma Kalou, économiste, professeur Oumar Bouaré, également économiste, et docteur Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES.
Merci, Mohamedou, et très bon débat. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.
C'est dans ta manie.